Vous êtes sur RTL.
Il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, vous ne pourrez bientôt plus faire le coup de la panne.
C'est le frein numéro 1 à l'achat d'un véhicule électrique. La peur de tomber en rade, de ne pas trouver de borne de recharge. Le groupe pétrolier Total vient de faire un pas de géant en la matière en décrochant, c'est une info RTL, le plus gros contrat jamais signé en Europe. L'installation et l'exploitation de 20 000 points de recharge électrique aux Pays-Bas. On verra les conséquences pour nous dans un instant. Mais d'abord, bonjour Christophe Bourou.
Bonjour.
Les Néerlandais ont de l'avance sur les Français.
Oui, puisque le pays compte déjà plus de 42 000 points de recharge publique contre à peine 30 000 en France. Ainsi, les Pays-Bas accueillent un quart des bornes installées en Europe. Total décroche donc un contrat important. 20 000 points de recharge installés dans la région d'Amsterdam où vivent plus de 3 millions d'habitants. Cette énergie sera produite sur place et entièrement d'origine renouvelable avec des charges dites intelligentes, autrement dit capables de gérer les pics de consommation et de proposer des tarifs plus abordables aux heures creuses.
Et alors, chez nous en France, on en est où? Le marché de l'électrique, c'est encore un tout petit marché.
Oui, l'électrique, c'est à peine 2% du marché. Toutefois, l'installation de bornes s'accélère, plus 15% l'an dernier, soit une borne pour 7 véhicules en circulation. C'est mieux que la moyenne européenne, mais encore largement insuffisant, d'autant que cela concerne surtout les grandes villes. L'objectif est donc d'accélérer pour atteindre 100 000 bornes d'ici à 2 ans.
Les informations RTL de Christophe Bourou. Merci Christophe. On reste sur les routes avec cette circulaire vécue comme une trahison par les élus qui souhaitent revenir aux 90 km/h sur le réseau secondaire. Les départements ont le choix depuis le début de l'année, mais les conditions énumérées par ce texte sont tellement nombreuses et contraignantes qu'elles risquent d'en décourager plus d'un. Écoutez Vincent Descoeurs, il est député LR du Cantal. C'est un département qui envisage justement le retour aux 90 km/h.
Voilà que maintenant, il semblerait que le gouvernement, lui, incite les représentants de l'État dans les commissions départementales à s'en tenir à des critères qui, si on y réfléchit bien, ne sont jamais réunis sur aucun tronçon de route de ce pays. C'est-à-dire que quelque part, mais on se fout de nous, on reprend d'une main ce qu'on a donné de l'autre.
Un propos recueilli par Nicolas Fauroux.
RTL Matin, 8h02.
Le bilan du virus s'alourdit en Chine, déjà 9 morts.
Et il dépasse déjà les frontières avec un cas recensé aux États-Unis à Seattle. Un résident américain originaire de Chine, il en est revenu la semaine dernière. Il est hospitalisé mais est hors de danger. En France, le risque est faible mais pas exclu, prévient la ministre de la Santé Agnès Buzyn. On sait aussi que ce virus qui atteint les voies respiratoires peut muter, d'où cette inquiétude qui grandit en Chine, Philippe Dova, en Chine où le sujet n'est évoqué officiellement que depuis quelques heures.
Oui, si les premiers cas de malades du virus sont apparus fin décembre à Wuhan, il a fallu attendre l'annonce hier de sa transmissibilité entre humains pour que la Chine reconnaisse officiellement l'étendue de l'épidémie. Malgré sa gravité, l'information est loin de faire la une des journaux et la télévision diffuse en boucle les images heureuses du voyage de Xi Jinping dans la province du Yunnan. Pourtant, suspicion et interrogation règnent au sein de la population et les Chinois s'activent énormément sur les réseaux sociaux pour échanger images et conseils de prévention. Dans les rues et les transports en commun, ils sont de plus en plus nombreux à avancer masqués et du coup, les masques se font rares. Depuis ce matin, Macao compte un premier cas de malade et dans tous les casinos, le port du masque est désormais obligatoire pour les croupiers.
Merci Philippe Dova. Près de 440 cas déjà recensés en Chine où il manque déjà des masques de protection. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, se réunit ce soir en urgence pour décider des mesures à prendre, notamment sur d'éventuels contrôles aux frontières.
Emmanuel Macron en Israël.
Le président français assiste aux commémorations des 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau et dans un contexte sensible. On en parlait hier sur cette antenne d'antisémitisme rampant en France. On rappelle que début décembre, dans le Bas-Rhin, 107 tombes ont été profanées dans un cimetière juif. Il y a 2 ans, plus de 2400 juifs de France ont fait leur alia vers Israël, c'est-à-dire qu'ils ont choisi de quitter l'Hexagone. Le phénomène a surtout connu un bond en 2015 après les attentats. À Jérusalem, notre envoyé spécial, Bénédicte Tassar, a rencontré une famille qui habitait à l'époque à Montrouge, près de Paris.
Bienvenue mes amis de la France, nous dit Anna en hébreu, une langue qu'à 13 ans elle maîtrise à peu près comme ses frères, Elie 16 ans, Noam 5 ans et ses parents Déborah et David. Ils ont tout lâché en France pour débarquer à Jérusalem il y a 3 ans.
3 ans, on est installé, on est bien, c'est difficile.
parce qu'on avait un certain confort en France, et une situation, mais là on repart sur de bonnes bases et on est heureux.
Dans la cuisine, Noam nous montre une vidéo en hébreu. Déborah nous explique que le déclic, il s'est fait le jour de l'attentat de Montrouge. Déborah déposait alors Noam à la crèche. À quelques mètres de là, Clarissa Jean-Philippe était abattue.
À 8h05, mon téléphone sonne, c'est ma mère. Et elle me dit, où est-ce que tu te trouves? Je lui dis, je suis encore à Montrouge, il y a des embouteillages devant moi, c'est terrible. Elle me dit, mais je pense qu'il y a un très gros problème. Et je capte, hein, et j'ouvre les yeux. Et en fait, je vois que le garde qui est devant l'école prend les enfants, mais les attrape par le cou, par leur manteau pour les faire rentrer. Je vois un camion de sécurité et je me mets à pleurer.
Alors aujourd'hui, quand ils regardent la France, David et Déborah se disent plus tranquilles, loin de l'antisémitisme.
Il y a beaucoup d'insécurité. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, un juif il puisse aller tranquillement à la synagogue avec la kippa sur la tête. Je pense que ça dérangerait énormément de monde. Bon, j'avais des petits tacles qu'on y allait le Shabbat à la synagogue, mais ça me dérangeait pas plus que ça. Mais pour mes enfants, oui.
Au niveau sécuritaire, la France n'a pas les moyens techniques de protéger la population. Et je pense que le conseil à donner à M. Macron, c'est peut-être aussi de prendre, comme on est ici un pays en guerre, on ne se le cache pas, mais de prendre énormément de conseils auprès du gouvernement ici, point de vue sécuritaire. Nous, on est en guerre, mais on n'a pas l'impression d'être en guerre.
Il y a des musulmans tous les jours qui travaillent avec nous, il y a des chrétiens, il y a des juifs. On se côtoie tous les jours et on n'a pas ces problèmes-là.
On vit ensemble.
Un reportage à Jérusalem, signé Bénédicte Tassard, envoyé spécial de RTL. Demain, Emmanuel Macron rendra hommage aux Juifs déportés depuis la France. Il se rendra au mémorial de la déportation des Juifs de France à l'ouest de Jérusalem, en compagnie notamment du couple Klarsfeld, hein, qui a dénoncé de nombreux dignitaires nazis.
Dans un court instant, RTL au cœur du procès en destitution de Donald Trump. Philippe Corbet a pu suivre une partie de l'audience dans la salle au Capitole. On l'appelle dans un instant.
Il est 8h06.
Citroën.fr.
RTL Matin.
8h07, la suite de votre journal. Jérôme Florin, Yves Calvi.
Le procès en destitution de Donald Trump est donc entré dans le vif du sujet.
Je vous rappelle qu'il est accusé d'abus de pouvoir par l'opposition démocrate depuis un coup de fil passé cet été à son homologue ukrainien, vu comme un moyen de pression pour tenter de déstabiliser son potentiel rival à la présidentielle, Joe Biden. Trump nie tout en bloc. Il n'est pas présent physiquement au Sénat. Il est défendu par ses avocats. Bonjour Philippe Corbet.
Bonjour Jérôme.
Vous suivez à Washington la première audience, elle a commencé hier soir à 19h, heure de Paris. Elle vient de se terminer, donc près de 13 heures d'audience. Vous avez pu entrer dans la salle et suivre une partie des débats. Racontez-nous Philippe, l'ambiance qui règne au sein de ce procès historique.
C'est très étrange d'observer de près ces 100 sénateurs jurés, enfermés et muets. Ils n'ont pas le droit de parler sous peine d'emprisonnement. Pas de téléphone, studio, ils noircissent leurs bloc-notes. Certains sont affalés, l'un d'entre eux s'est endormi à un moment. On ne peut leur servir que de l'eau et du lait. En cas de coup de mou, il y a quand même une réserve de chocolat dans un tiroir. Mais ce qui tranche avec cette atmosphère de huis clos feutré solennel, c'est la hargne, la méchanceté de plus en plus visible au fil de la nuit du côté des procureurs, mais aussi de la défense. Comme cet avocat du président, on dirait qu'il cherche à impressionner Donald Trump qui regarde et tweet depuis Davos, en Suisse.
A partisan impeachment.
Une destitution partisane, c'est comme voler une élection. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Et je peux vous dire que le peuple américain ne va pas tolérer ça.
C'est si tendu que le président de la Cour suprême, qui n'est pas censé intervenir, vient de faire la leçon aux deux camps avant cette fin d'audition il y a quelques minutes, donc près de 2h du matin, après avoir voté contre 11 amendements successifs des démocrates. La majorité républicaine vient enfin d'approuver les règles du procès.
Merci Philippe Corbet en direct de Washington. On suivra évidemment ce procès dans les jours qui viennent.
RTL Matin, 8h09.
Alors le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Hein. C'est encore plus vrai aujourd'hui à Bruxelles et à Milan.
Un mégot jeté à terre dans la capitale belge vous coûtera désormais 200 euros. L'amende vient d'être multipliée par 4. Et à Milan, c'est le simple fait de fumer à l'arrêt de bus ou dans des files d'attente qui sera bientôt interdit avant une interdiction totale d'ici 2030.
En France, il y a aussi des amendes qui sont prévues pour les mégots jetés à terre, mais sont-elles vraiment appliquées? Eh bien, c'est la question du week-end.
Et c'est avec vous, Jacques Serret, bonjour.
Bonjour.
Depuis 10 ans, les villes qui le souhaitent sont en mesure de verbaliser, c'est le cas?
Oui, dans certaines villes, mais pas partout. Paris a mis en place cette amende en 2015 pour ceux qui jettent leurs mégots dans la rue. C'est 68 euros pour les contrevenants. 36 000 fumeurs parisiens se sont fait prendre en 2018. Ils étaient 25 000 en 2017. Paris, mais aussi Cannes, Biarritz ou encore Lille font clairement la chasse aux mauvais fumeurs. Ailleurs, c'est un peu plus flou. Pas de règles écrites, c'est au bon vouloir des agents municipaux.
Pourtant, Jacques, c'est un vrai enjeu écologique, les mégots.
Oui, car un seul mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau, il faut environ 12 ans pour qu'il se décompose dans la nature. Effrayant quand on sait que sur les 60 milliards de cigarettes fumées chaque année en France, un tiers, soit 20 milliards, seraient jetés par terre. Rien qu'à Paris, cela représente 350 tonnes de mégots ramassés dans les rues par an. Il est donc urgent de changer les mentalités ou bien d'arrêter de fumer.
Des chiffres impressionnants. La question de 8 heures avec Jacques Soret ce matin.
En football, Lyon est le premier club qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue. L'OL s'est imposé contre Lille au tir au but. 6 ans après leur dernière finale, les Lyonnais retrouvent donc le Stade de France. Ils affronteront le PSG ou Reims qui se disputent ce soir la place en finale.
Story of the day, l'histoire du jour.
Un sigle à revoir. Alors sur le papier, c'est une belle idée, celle de créer dans les 2 ans 2000 structures qui accueilleront au même endroit plusieurs services publics dans les zones rurales notamment. Emmanuel Macron l'avait annoncé après la crise des Gilets jaunes, structure qui devait être baptisée Maison France Service. Donc ça fait un sigle.
MFS.
Pardon.
Oh ça va, MFS.
Et bien justement, ça a beaucoup fait rire dans les cabinets ministériels. Certains ont trouvé que cela prêterait un peu trop à rire.
MFS.
Et bien, les lieux en question devraient être baptisés finalement Espace France Service pour éviter les mauvais jeux de mots.
J'aime bien me faire piéger. C'était le jour.